Point numéro 4. L'esprit qui transforme la souffrance en amour sauveur. L'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu a été appelé par Jésus dans son discours au Cénacle, le Paraclète. En effet, depuis le commencement, il est invoqué pour manifester le péché du monde. Il est invoqué de façon définitive à travers la croix du Christ. Manifester le péché veut dire montrer le mal qu'il comporte, ce qui revient à révéler le mysterium iniquitatis. Il n'est pas possible de saisir le mal du péché dans toute sa douloureuse réalité sans sonder les profondeurs de Dieu. Depuis les origines, le mystère obscur du péché s'est manifesté dans le monde avec en arrière-plan la référence au Créateur de la liberté humaine. Il s'est manifesté comme un acte de volonté de la créature homme, contraire à la volonté de Dieu, à la volonté salvifique de Dieu. Bien plus, il s'est manifesté en opposition à la vérité, sur la base du mensonge désormais jugé définitivement. Ce mensonge, qui a mis en état d'accusation, en état de suspicion permanente, l'amour créateur et sauveur lui-même. L'homme a suivi le père du mensonge en s'opposant au père de la vie et à l'esprit de vérité. Manifester le péché ne devrait-il pas alors signifier également révéler la souffrance, révéler la douleur, inconcevable et inexprimable, que, à cause du péché, le livre saint semble, dans sa vision anthropomorphique, entrevoir dans les profondeurs de Dieu, et, en un sens, au cœur même de l'inexprimable Trinité. L'Église, s'inspirant de la révélation, croit et professe que le péché est une offense faite à Dieu. Qu'est-ce qui correspond dans l'insondable intimité du Père, du Verbe et de l'Esprit-Saint à cette offense, à ce refus de l'Esprit qui est amour et don? La conception de Dieu comme être nécessairement très parfait exclut évidemment en Dieu toute souffrance provenant de carences ou de blessures. Mais dans les profondeurs de Dieu, il y a un amour du Père qui, face au péché de l'homme, réagit, selon le langage biblique, jusqu'à dire « Je me repens d'avoir fait l'homme ». Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit « Je me repens de les avoir faits ». Mais plus souvent le livre saint nous parle d'un père qui éprouve de la compassion pour l'homme, comme s'il partageait ses souffrances. En définitive, cette insondable et indescriptible douleur de père donnera surtout la naissance à l'admirable économie de l'amour rédempteur du Christ, afin que, par le mysterium pietatis, l'homme puisse, dans l'histoire de l'homme, se révéler plus fort que le péché, afin que prévale le don. L'Esprit Saint, qui selon les paroles de Jésus manifeste le péché, est l'amour du Père et du Fils, et, comme tel, il est le don trinitaire tout en étant la source éternelle de toute largesse divine aux créatures. En lui précisément, nous pouvons concevoir comme personnifiée et réalisée d'une manière transcendante la miséricorde que la tradition patristique et théologique, dans la ligne de l'Ancien et du Nouveau Testament, attribue à Dieu. En l'homme, la miséricorde inclut la douleur et la compassion pour les misères du prochain. En Dieu, l'Esprit qui est amour fait que la considération du péché humain se traduit par de nouvelles libéralités de l'amour sauveur. De lui, dans l'unité avec le Père et le Fils, naît l'économie du salut, qui remplit l'histoire de l'homme des dons de la rédemption. Si le péché, en refusant l'amour, a engendré la souffrance de l'homme, qui s'est étendue d'une certaine manière à toute la création, l'Esprit Saint entrera dans la souffrance humaine et cosmique avec une nouvelle effusion d'amour qui rachètera le monde. Et sur les lèvres de Jésus rédempteur, dans l'humanité de qui se concrétise la souffrance de Dieu, reviendra un mot par lequel se manifeste l'amour éternel plein de miséricorde. Miséreor, j'ai pitié. Ainsi, pour l'Esprit Saint, mettre en lumière le péché revient à manifester, devant la création assujettie à la vanité, et surtout au plus profond des consciences humaines, que le péché est vaincu par le sacrifice de l'agneau de Dieu, lequel est devenu jusqu'à la mort le serviteur obéissant, qui, remédiant la désobéissance de l'homme, opère la rédemption du monde. C'est de cette façon que l'Esprit de vérité, le Paraclète, met en lumière le péché. La valeur rédemptrice du sacrifice du Christ est exprimée en des phrases très significatives par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Celui-ci, après avoir rappelé les sacrifices de l'Ancienne Alliance, dans lesquels les sangs des boucs et des jeunes taureaux procuraient la pureté de la chair, ajoute « Combien plus le sang du Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ?» Certes, d'autres interprétations sont possibles, mais nos considérations sur la présence de l'Esprit-Saint dans toute la vie du Christ nous portent à reconnaître dans ce texte comme une invitation à réfléchir sur la présence de ce même Esprit-Saint également dans le sacrifice rédempteur du Verbe incarné. Revenons donc d'abord sur les paroles initiales qui traitent de ce sacrifice, puis séparément sur la purification de la conscience qu'il opère. Il s'agit, en effet, d'un sacrifice offert par l'œuvre de, un esprit éternel, qui reçoit de lui la force de manifester le péché pour le salut. C'est ce même Esprit Saint que, selon la promesse faite au Synode, Jésus-Christ portera aux apôtres le jour de sa résurrection, en se présentant à eux avec les plaies de la crucifixion, et qu'il leur donnera pour la rémission des péchés. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés. Ils leur seront remis. Nous savons que Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, comme le disait Simon-Pierre dans la maison du centurion Corneille. Nous connaissons le mystère pascal de son départ selon l'évangile de Jean. Les paroles de la lettre aux Hébreux nous expliquent maintenant de quelle façon le Christ s'est offert lui-même sans tache à Dieu, et nous disent qu'il l'a fait par un esprit éternel. Dans le sacrifice du Christ de l'homme, l'Esprit Saint est présent et agit de la même manière qu'il agissait dans sa conception, dans sa venue au monde, dans sa vie cachée et dans son ministère public. Selon la lettre aux Hébreux, en route vers son départ, à travers Gethsémani et Golgotha, ce même Jésus-Christ s'est ouvert totalement, dans son humanité, à l'action de l'Esprit Paraclète, qui, dans la souffrance, fait apparaître l'amour éternel, source de salut. Il a donc été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a pris, de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Ainsi, cette lettre montre que l'humanité, soumise au péché dans les descendances du premier Adam, est devenue en Jésus-Christ parfaitement soumise à Dieu et unie à lui, tout en étant remplie de miséricorde à l'égard des hommes. Apparaît alors une nouvelle humanité qui, en Jésus-Christ, par la souffrance de la croix, est revenue à l'amour trahi par le péché d'Adam. Cette nouvelle humanité s'est retrouvée dans la même source divine du don originel, dans l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, et qui lui-même est amour et don. Le Fils de Dieu Jésus-Christ, en tant qu'homme, dans la prière ardente de sa passion, a permis à l'Esprit Saint, qui avait déjà pénétré jusqu'au fond son humanité, de la transformer en un sacrifice parfait, par l'acte de sa mort, comme victime d'amour sur la croix. C'est seul qu'il a présenté cette offrande. Prêtre unique, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Dans son humanité, il était digne de devenir un tel sacrifice, car lui seul était sans tâche. Mais il l'a offert par un esprit éternel. Cela signifie que l'Esprit Saint a agi d'une manière spéciale dans ce don absolu de lui-même réalisé par le Fils de l'homme pour transformer la souffrance en amour rédempteur. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent du feu du ciel qui brûlait les offrandes présentées par les hommes. Par analogie, on peut dire que l'Esprit Saint est le feu du ciel qui agit au plus profond du mystère de la croix. Venant du Père, il tourne vers le Père le sacrifice du Fils, le faisant entrer dans la divine réalité de la communion trinitaire. Si le péché a engendré la souffrance, maintenant, la douleur de Dieu dans le Christ crucifié acquiert, par l'Esprit Saint, toute son expression humaine. On se retrouve ainsi devant un mystère paradoxal d'amour. Dans le Christ souffre un Dieu repoussé par sa propre créature, il ne croit pas en moi, mais en même temps, devant la profondeur de cette souffrance, et indirectement la profondeur du péché même de ne pas avoir cru, l'Esprit fait croître à un degré nouveau le don fait à l'homme et à la création depuis le commencement. Dans les profondeurs du mystère de la croix, l'amour agit, et cet amour amène l'homme à participer de nouveau à la vie qui est en Dieu même. L'Esprit Saint, en tant qu'amour et don, descend en un sens au cœur même du sacrifice offert sur la croix. En nous référant à la tradition biblique, nous pouvons dire qu'il consomme ce sacrifice par le feu de l'amour qui unit le Fils au Père dans la communion trinitaire. Et comme le sacrifice de la croix est un acte propre du Christ, dans ce sacrifice aussi, il reçoit l'Esprit Saint. Il le reçoit d'une manière telle qu'il peut ensuite lui-même, et lui seul avec Dieu le Père, le donner aux apôtres, à l'Église, à l'humanité. Lui seul l'envoie d'auprès du Père. Lui seul se présente devant les apôtres réunis au Cénacle, souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ainsi que l'avait annoncé Jean-Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Par ces paroles de Jésus, l'Esprit Saint est révélé et en même temps rendu présent comme l'amour qui agit au plus profond du mystère pascal, comme source de la puissance salvifique de la croix du Christ, comme don de la vie nouvelle et éternelle. Cette vérité sur l'Esprit Saint est exprimée quotidiennement dans la liturgie romaine, lorsque le prêtre, avant la communion, prononce ces paroles significatives. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Et dans la troisième prière eucharistique, se référant à cette même économie du salut, le prêtre demande à Dieu que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Point numéro 5, le sang qui purifie la conscience. Nous avons dit qu'au point culminant du mystère pascal, l'Esprit Saint est définitivement révélé et rendu présent d'une façon nouvelle. Le Christ ressuscité dit aux apôtres « Recevez l'Esprit Saint ». Ainsi est révélé l'Esprit Saint, car les paroles du Christ continuent la confirmation des promesses et des annonces du discours du Cénacle. Et, par là même, le Paraclète est rendu présent d'une manière nouvelle. En réalité, il agissait depuis le commencement dans le mystère de la création et tout le long de l'histoire de l'ancienne alliance de Dieu avec l'homme. Son action a été pleinement confirmée par la mission du Fils de l'homme, le Messie venu dans la puissance de l'Esprit Saint. Au sommet de la mission messianique de Jésus, l'Esprit Saint se rend présent au sein du mystère pascal dans sa qualité de sujet divin. Il est celui qui doit maintenant continuer l'œuvre salvifique enracinée dans le sacrifice de la croix. Cette œuvre, bien sûr, est confiée par Jésus à des hommes, aux apôtres et à l'Église. Toutefois, en ces hommes et par eux, l'Église Saint demeure le sujet transcendant de la réalisation de cette œuvre dans l'esprit de l'homme et dans l'histoire du monde. Lui, le paraclète invisible, tout en étant omniprésent. L'Esprit qui souffle où il veut. Les paroles prononcées par Jésus ressuscité le premier jour après le sabbat mettent particulièrement en relief la présence du paraclète consolateur, celui qui établit la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. C'est seulement dans ce rapport, en effet, que s'expliquent les paroles que Jésus met en relation directe avec le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Il dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus confère aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés, pour qu'ils le transmettent à leurs successeurs dans l'Église. Toutefois, ce pouvoir, accordé aux hommes, présuppose et inclut l'action salvifique de l'Esprit Saint. En devenant la lumière des cœurs, c'est-à-dire des consciences, l'Esprit Saint manifeste le péché, c'est-à-dire fait connaître à l'homme son mal et en même temps l'oriente vers le bien. Grâce à la multiplicité de ses dons, on l'invoque comme le porteur des sept dons. La puissance salvifique de Dieu peut atteindre tout péché, de quelque genre qu'il soit. En réalité, comme le dit Saint Bonaventure, en vertu des sept dons de l'Esprit Saint, tous les maux sont détruits, tandis que sont réalisés tous les biens. Sous l'influence du Paraclète, s'accomplit donc cette conversion du cœur humain, qui est la condition indispensable du pardon des péchés. Sans une vraie conversion, qui suppose une contrition intérieure, et en l'absence d'une résolution ferme et sincère de changement, les péchés restent non remis, comme le dit Jésus. Et avec lui, la tradition de l'ancienne et de la nouvelle alliance. En effet, les premières paroles prononcées par Jésus au début de son ministère, selon l'évangile de Marc, sont les suivantes. « Convertissez-vous et croyez en l'évangile. » Nous avons une confirmation de cette exhortation dans la mise en lumière du péché, que l'Esprit Saint entreprend d'une manière nouvelle en vertu de la rédemption opérée par le sang du Fils de l'homme. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux dit que le sang purifie la conscience. Et, donc celui-ci, pour ainsi dire, ouvre à l'Esprit Saint la route qui conduit au cœur de l'homme, c'est-à-dire au sanctuaire des consciences humaines. Le Concile Vatican II a rappelé l'enseignement catholique sur la conscience, en parlant de la vocation de l'homme et en particulier de la dignité de la personne humaine. C'est précisément la conscience qui détermine d'une manière spécifique cette dignité. Elle est en effet le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est clairement qu'elle dit dans l'intimité de son cœur « Fais ceci, évite cela ». Cette capacité de commander le bien et d'interdire le mal, inscrite dans l'homme par le Créateur, est la propriété caractéristique du sujet personnel. Mais en même temps, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne se donne pas lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. La conscience n'est donc pas une source autonome et exclusive pour décider ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Au contraire, en elle-même est, profondément inscrit, un principe d'obéissance à l'égard de la norme objective qui fonde et conditionne la conformité de ses décisions aux commandements et aux interdits qui sont à la base du comportement humain, comme il apparaît dès la page du livre de la Genèse déjà évoquée. En ce sens précis, la conscience est le sanctuaire secret où la voix de Dieu se fait entendre. Et c'est la voix de Dieu, même quand l'homme reconnaît exclusivement en elle le principe de l'ordre moral dont on ne peut douter humainement, fût-ce sans référence directe au Créateur, la conscience trouve toujours son fondement et sa justification dans cette référence. La mise en lumière du péché sous l'influence de l'esprit de vérité, dont parle l'Évangile, ne peut se réaliser dans l'homme autrement que par le chemin de la conscience. Si la conscience est droite, elle sert à trouver, selon la vérité, la solution de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Et alors, les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Le premier fruit d'une conscience droite est d'appeler par leur nom le bien et le mal, comme le fait par exemple la constitution pastorale de Vatican II. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie sous-humains, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable, et, après avoir appelé par leur nom les multiples péchés si fréquents et si répandus en notre temps, la Constitution ajoute « Toutes ces pratiques et d'autres analogues sont, en vérité, infâmes. » Tandis qu'elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s'y livrent, plus encore que ceux qui la subissent, et insultent gravement à l'honneur du Créateur. En appelant par leur nom les péchés les plus déshonorants pour l'homme, et en démontrant qu'ils sont un mal moral qui s'inscrit au passif de tout bilan du progrès de l'humanité, le Concile caractérise tout cela comme une étape de la lutte combien dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui caractérise toute la vie des hommes, individuelle et collective. L'Assemblée du Synode des évêques de 1983, sur la réconciliation et la pénitence, a précisé davantage encore la signification personnelle et sociale du péché de l'homme. Au Cénacle, la veille de sa passion, puis le soir de Pâques, Jésus-Christ a fait appel à l'Esprit-Saint, comme à celui qui témoigne que, dans l'histoire de l'humanité, le péché continue à exister. Toutefois, le péché est soumis à la puissance salvifique de la rédemption, la manifestation du péché du monde, ne s'arrête pas au simple fait d'appeler celui-ci par son nom et de l'identifier pour ce qu'il est dans toute l'étendue de sa nature. Dans la manifestation du péché du monde, l'esprit de vérité rencontre la voix des consciences humaines. De cette façon, on en arrive à mettre en évidence les racines du péché qui se trouvent au cœur de l'homme. Et comme le souligne la même constitution pastorale, en vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental, qui prend racine dans le cœur de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. Le texte conciliaire se réfère aussi aux paroles bien connues de saint Paul. La mise en lumière du péché, qui accompagne la conscience humaine chaque fois qu'elle réfléchit en profondeur sur elle-même, conduit donc à la découverte des racines du péché dans l'homme, et aussi des conditionnements de la conscience elle-même au cours de l'histoire. Nous retrouvons de cette façon la réalité originelle du péché dont nous avons déjà parlé. L'Esprit-Saint met en lumière le péché par rapport au mystère du commencement, en indiquant le fait que l'homme est un être créé et qu'il est donc en totale dépendance ontologique et éthique du Créateur, tout en rappelant la condition pécheresse héréditaire de la nature humaine. Mais c'est toujours en relation avec la croix du Christ que l'Esprit-Saint Paraclète met en lumière le péché. Dans cette relation, le christianisme exclut toute fatalité du péché. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour, exprime ainsi le Concile. Mais le Seigneur en personne est venu pour restaurer l'homme dans sa liberté et dans sa force. Loin de se laisser prendre au piège de sa condition de pécheur, l'homme, s'appuyant sur la voie de sa propre conscience, doit donc sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et ce n'est qu'au prix de grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu'il parvient à réaliser son unité intérieure. À juste titre, le Concile voit dans le péché le responsable de la rupture qui pèse sur la vie personnelle comme sur la vie sociale de l'homme, mais en même temps, il rappelle inlassablement la possibilité de la victoire. L'esprit de vérité, qui met en évidence le péché du monde, rencontre les efforts de la conscience humaine, dont les textes conciliaires parlent d'une manière très suggestive. Ces efforts de la conscience déterminent aussi les voies de la conversion humaine. Tourner le dos au péché pour rebâtir la vérité et l'amour au cœur même de l'homme. On sait que parfois, il en coûte beaucoup de reconnaître le mal en soi-même. On sait que non seulement la conscience commande ou interdit, mais qu'elle juge à la lumière des ordres et des défenses intérieures. Elle est aussi la source des remords. L'homme souffre intérieurement à cause du mal qu'il a commis. Cette souffrance n'est-elle pas comme un écho lointain de ce regret d'avoir créé l'homme que le Livre Saint, dans un langage anthropomorphique, attribue à Dieu, de cette réprobation qui, s'inscrivant au cœur de la Trinité, se traduit par la douleur de la croix, par l'obéissance du Christ jusqu'à la mort en vertu de l'amour éternel? Quand l'esprit de vérité permet à la conscience humaine de participer à cette douleur, la souffrance de la conscience devient particulièrement profonde, mais aussi particulièrement salvifique. Par un acte de contrition parfaite, s'opère alors la conversion authentique du cœur. C'est la métanoïa évangélique. Les efforts du cœur humain, les efforts de la conscience grâce auxquels s'opère cette métanoïa, ou conversion, sont le reflet du processus par lequel la réprobation est transformée en amour salvifique qui accepte de souffrir. L'auteur caché de cette force salvatrice est l'Esprit Saint. Lui qui est appelé par l'Église lumière des consciences, pénètre et remplit jusqu'à l'intimité des cœurs humains. Par une telle conversion dans l'Esprit Saint, l'homme s'ouvre au pardon, à la rémission des péchés. Et tout cet admirable dynamisme de la conversion-rémission confirme la vérité de ce qu'écrit saint Augustin sur le mystère de l'homme en commentant les paroles du psaume « L'abîme appelle l'abîme ». C'est précisément à l'égard de cette profondeur abyssale de l'homme, de la conscience humaine, que s'accomplit la mission du Fils et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient en vertu du départ du Christ dans le mystère pascal. Il vient en tout cas concret de conversion-rémission, en vertu du sacrifice de la croix. En lui, en effet, le sang du Christ purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Ainsi s'accomplissent continuellement les paroles sur l'Esprit Saint, présentées comme un autre paraclète, paroles qui, au Cénacle, furent adressées aux apôtres et indirectement à tous. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Point numéro 6. Le péché contre l'Esprit Saint. Compte tenu de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, certaines autres paroles impressionnantes et saisissantes de Jésus deviennent compréhensibles. On pourrait les appeler les paroles du non-pardon. Elles nous sont rapportées par les synoptiques à propos d'un péché particulier qui est appelé blasphème contre l'Esprit Saint. Voici comment elles ont été rapportées dans les trois rédactions. Commençons par Matthieu. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. Marc. Tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint, n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. Luc. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint est-il impardonnable? En quel sens entendre ce blasphème? Saint Thomas d'Aquin répond qu'il s'agit du péché irrémissible de par sa nature, parce qu'il exclut les éléments de grâce auxquels est accordée la rémission des péchés. Selon une telle exégèse, le blasphème ne consiste pas à proprement parler à offenser en parole l'Esprit Saint, mais il consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre aux hommes par l'Esprit Saint, agissant en vertu du sacrifice de la croix. Si l'homme refuse la manifestation du péché, qui vient de l'Esprit Saint et qui a un caractère salvifique, il refuse en même temps la venue du Paraclète, cette venue qui s'est effectuée dans le mystère de Pâques, en union avec la puissance rédemptrice du sang du Christ, le sang qui purifie la conscience des œuvres mortes. Nous savons que le fruit d'une telle purification est la rémission des péchés. En conséquence, celui qui refuse l'Esprit et le sang demeure dans les œuvres mortes, dans le péché. Et le blasphème contre l'Esprit Saint consiste précisément dans le refus radical de cette rémission, dont il est le dispensateur intime, et qui présuppose la conversion véritable qu'il opère dans la conscience. Si Jésus dit que le péché contre l'Esprit Saint ne peut être remis ni en ce monde ni dans l'autre, c'est parce que cette non-rémission est liée, comme à sa cause, à la non-pénitence, c'est-à-dire au refus radical de se convertir. Cela signifie le refus de se tourner vers les sources de la rédemption, qui reste cependant toujours ouverte dans l'économie du salut, dans laquelle s'accomplit la mission de l'Esprit Saint. Celui-ci a le pouvoir infini de puiser à ses sources. C'est de mon bien qu'il reçoit, dit Jésus. Il complète ainsi, dans les âmes humaines, l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ, en leur partageant ses fruits. Or, le blasphème contre l'Esprit Saint est le péché commis par l'homme qui présume et revendique le droit de persévérer le mal, dans le péché quel qu'il soit, et refuse par là même la rédemption. L'homme reste enfermé dans le péché, rendant donc impossible pour sa part sa conversion, et aussi, par conséquent, la rémission des péchés, qu'il ne juge pas essentielle ni importante pour sa vie. Il y a là une situation de ruine spirituelle, car le blasphème contre l'Esprit Saint ne permet pas à l'homme de sortir de la prison où il s'est lui-même enfermé et de s'ouvrir aux sources divines de la purification des consciences et de la rémission des péchés. L'action de l'Esprit de vérité, qui tend à la mise en lumière du péché pour le salut, se heurte dans l'homme qui se trouve en une telle situation à une résistance intérieure, presque une impénétrabilité de la conscience, un état d'âme que l'on dirait durci en raison d'un libre choix. C'est ce que la Sainte Écriture appelle l'endurcissement du cœur. De nos jours, à cette attitude de l'esprit et du cœur fait peut-être écho la perte du sens du péché, à laquelle l'exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia a consacré de nombreuses pages. Déjà, le pape Pie XII avait affirmé que le péché de ce siècle est la perte du sens du péché, et cela va de pair avec la perte du sens de Dieu. Dans l'exhortation mentionnée ci-dessus, nous lisons: En réalité, Dieu est l'origine et la fin suprême de l'homme, et celui-ci porte en lui un germe divin. C'est pourquoi c'est le mystère de Dieu qui dévoile et éclaire le mystère de l'homme. Il est donc vain d'espérer qu'un sens du péché puisse prendre consistance par rapport à l'homme et aux valeurs humaines s'y fait défaut le sens de l'offense commise contre Dieu, c'est-à-dire véritable sens du péché. C'est pourquoi l'Église ne cesse de demander à Dieu que la rectitude ne fasse jamais défaut dans les consciences humaines, et que ne s'atténue pas leur sainte sensibilité face au bien et au mal. Cette rectitude et cette sensibilité sont intimement liées à l'action de l'Esprit de vérité. Cet éclairage rend particulièrement éloquentes les exhortations de l'apôtre. N'éteignez pas l'Esprit, ne contristez pas l'Esprit Saint. Mais surtout, l'Église ne cesse de prier intensément pour que n'augmente pas dans le monde le péché appelé par l'Évangile blasphème contre l'Esprit Saint, et, plus encore, pour qu'il régresse dans les âmes, et par contre-coup, dans les divers milieux et les différentes formes de la société, cédant la place à l'ouverture des consciences indispensables à l'action salvifique de l'Esprit Saint. L'Église demande que le dangereux péché contre l'Église laisse la place à une sainte disponibilité à accepter sa mission de paraclète lorsqu'il vient manifester la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Dans son discours d'adieu, Jésus a lié ces trois domaines de la manifestation, qui sont les composantes de la mission du paraclète: le péché, la justice et le jugement. Ils indiquent la place de ce mysterium pietatis qui, dans l'histoire de l'homme, s'oppose au péché, au mysterium inquitatis. D'un côté, comme le dit saint Augustin, il y a l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et de l'autre, il y a l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'Église fait continuellement monter sa prière et accomplit sa tâche pour que l'histoire des consciences et l'histoire des sociétés, dans la grande famille humaine, ne s'abaisse pas vers le pôle du péché par le refus des commandements de Dieu jusqu'au mépris de Dieu, mais bien plutôt s'élève vers l'amour dans lequel se révèle l'Esprit qui donne la vie. Ceux qui acceptent la mise en évidence du péché par l'Esprit Saint l'acceptent également pour la justice et le jugement. L'Esprit de vérité, qui aide les hommes, les consciences humaines, à connaître la vérité du péché, fait en sorte par là même qu'ils connaissent la vérité de la justice qui est entrée dans l'histoire de l'homme avec la venue de Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui, convaincus qu'ils sont des pécheurs, se convertissent sous l'action du Paraclète, sont en un sens conduits hors du cercle du jugement, de ce jugement par lequel le prince de ce monde est déjà jugé. La conversion, dans la profondeur de son mystère divin et humain, signifie la rupture de tout lien par lequel le péché unit l'homme à l'ensemble du mysterium iniquitatis. Donc, ceux qui se convertissent sont conduits par l'Esprit Saint hors du cercle du jugement et introduits dans la justice qui se trouve dans le Christ Jésus, et qui s'y trouve parce qu'il reçoit du Père, comme un reflet de la sainteté trinitaire. Telle est la justice de l'Évangile et de la rédemption, la justice du discours sur la montagne et de la croix, qui opère la purification de la conscience par le sang de l'agneau. C'est la justice que le Père rend au Fils et à tous ceux qui lui sont unis dans la vérité et dans l'amour. Dans cette justice, l'Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, qui manifeste le péché du monde, se révèle et se rend présent dans l'homme comme esprit de vie éternelle. Fin de la deuxième partie.